l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, aux Philippines, qu'attendre du mandat de Ferdinand Marcos Jr.
Oui, c'est bien le fils de Ferdinand Marcos, l'ancien président des Philippines, celui-là même qui a imposé 14 ans de dictature au nom de la lutte contre le communisme pendant la guerre froide. C'est donc son fils qui a été élu avec près de 60% des suffrages, 12 millions de voix de plus que pour son adversaire, autrement dit le meilleur score à la présidentielle philippine depuis 1969, quand se tinrent les dernières élections libres avant la promulgation de la loi martiale en 72, avec le soutien à l'époque des États-Unis. Alors vous le disiez, Baptiste, dans vos enjeux des réseaux sociaux, la campagne s'est faite dans un déluge de désinformation, de cyberharcèlement, de violence politique, et pas seulement du côté du camp Marcos d'ailleurs. Une élection qui questionne l'état de la démocratie aux Philippines, pays d'Asie du Sud-Est, qui a été, il faut le rappeler, le premier en Asie à se débarrasser du colonialisme espagnol à la fin du 19e siècle et à établir une république. Bonjour Juliette Loesch.
Bonjour Julie.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse sur l'Asie du Sud-Est et vous tenez un blog d'actualité sur cette région du monde, durianstories.fr. Alors Juliette Loesch, à part sa condition de fils de dictateur et de sa femme, hein, d'ailleurs Ferdinand et Imelda Marcos, qu'est-ce qu'on sait du parcours de Ferdinand Marcos Jr. et de la façon dont il s'inscrit ou pas dans sa lignée familiale?
En fait, Ferdinand Marcos Jr. s'inscrit totalement dans sa lignée familiale puisqu'il est, alors certes pas l'exacte réplique de son père, mais en tout cas, grâce à la prédominance de sa famille à la fois pendant la loi martiale, mais aussi ensuite à leur retour d'exil des États-Unis en 91, suivi un parcours politique qui l'a mené des premiers échelons de gouvernance locale jusqu'à aujourd'hui son futur mandat de président. Donc il a été à la fois gouverneur de sa région d'Ilocos Norte, dans le nord de l'île de Luzon, puis député à la Chambre des représentants, sénateur. Il a manqué de peu la vice-présidence en 2016 et aujourd'hui président. Donc il a vraiment fait un cursus honorum de la politique aux Philippines et toujours bien implanté dans ce qu'on appelle le Solin North, qui est son fief, ou plutôt le fief de sa famille dans le nord des Philippines.
Avec donc un mandat très important, celui de gouverneur, puisque les Philippines sont un état déconcentré. Marcos s'était déjà présenté à la vice-présidence en 2016. Il avait perdu à très peu de points. Il avait d'ailleurs contesté le résultat devant la Cour suprême. Juliette Loesch, on ne peut pas le départir de sa famille. La famille politique, ça veut vraiment dire quelque chose aux Philippines.
Oui, absolument. En fait, les Philippines sont donc, comme on le disait dans le résumé juste avant, une république, un État démocratique et un État qui a cherché à mettre en place une démocratie libérale depuis la transition post-loi martiale en 86-87 et pourtant qui continue d'être structuré autour de grandes dynasties, de grandes familles politiques qui sont présentes aux différents échelons de gouvernance aux Philippines, donc qui s'appuient à la fois sur des mandats électifs locaux pour ensuite venir obtenir des postes, par exemple au Congrès ou aller se répartir dans les différentes instances du gouvernement, voire dans les secteurs privés.
Mais
on peut dire.
Oui, pardon. Quand je vous parlais des familles, c'est parce que les familles structurent la vie politique aux Philippines. Il y a la famille Marcos, il y a la famille Duterte, du nom du président sortant, et que toutes ces familles-là, elles doivent aussi parfois s'entendre. Là, c'est ce qui s'est passé. Le fils Marcos avait sur son ticket présidentiel la fille du président Duterte, ce qui est assez difficile à comprendre vu d'ici.
Oui, effectivement, c'est des familles qui vont s'entendre. Elles ont un intérêt, évidemment, à s'entendre entre elles pour continuer à exercer ce pouvoir collectif, un pouvoir oligarchique, kleptocratique, si on veut, pour reprendre un terme qui a beaucoup été utilisé pour décrire justement le régime du père de Ferdinand Marcos Jr. Là, par exemple, pour l'élection de Ferdinand Marcos Jr., il y a certes eu cette alliance entre la famille Marcos et Duterte, qui était un peu étonnante, certes, mais en même temps pas tant que ça, puisqu'on peut quand même se rappeler qu'en 2016, Marcos était présenté en ticket avec Duterte le père. Donc si, même si Duterte le père ne l'a pas soutenu pour l'élection de 2022, il a réussi malgré tout à obtenir une alliance avec sa fille qui... a permis de lui apporter son immense popularité et a crédibilisé sa candidature. Mais elle n'est pas la seule à s'être alliée avec Marcos, puisque, en fait, au tout début de la campagne, même un petit peu avant, la famille Marcos, représentée par un parti qui est en réalité un parti de façade, s'est alliée avec d'autres partis également partis de façade qui sont en fait les représentations politiques, entre guillemets, des grandes familles philippines et qui, à travers de cette alliance, certainement vont continuer de se répartir les différents postes, que ce soit des postes au sein du cabinet, donc du gouvernement, ou qui se sont répartis les postes lors des élections, puisque ces élections n'étaient pas seulement présidentielles, mais des élections qui concernaient une partie du Congrès et la totalité des postes électifs locaux.
Alors, est-ce qu'il n'y a que aux Philippines aujourd'hui des partis que vous dites de façade ? Parce qu'il y a quand même une candidate, par exemple, qu'on appelait libérale, qui est censée représenter le libéralisme démocratique, c'est, comment elle s'appelle, Robredo,
Leni
Robredo, voilà. Mais quel rôle, elle joue ? Quel rôle jouent les partis d'opposition aujourd'hui aux Philippines, sachant que Robredo, par exemple, Leni Robredo a annoncé pendant sa campagne qu'elle allait poursuivre la politique anti-drogue de Rodrigo Duterte, donc le président jusqu'à présent, qui est politique anti-drogue, qui a fait des milliers de morts au nom de la lutte contre les trafiquants. Donc est-ce qu'il y a aujourd'hui des partis qu'on peut vraiment dire de libéralisme démocratique aux Philippines ?
Alors, il y a des partis aux Philippines et en fait, il faut peut-être revenir à la façon dont la Chambre des représentants est élue. Les Philippins, lors du vote, ont deux votes. Un pour un candidat sur une circonscription qui appartient à un parti, mais qui n'est pas vraiment un parti, qui est, comme je disais, est souvent la représentation politique d'une famille, qu'elle soit implantée au niveau local ou une grande famille dynastique. Et le deuxième vote qu'ils ont, c'est un vote pour une party list. Donc là, vraiment, une sorte de système de semi-proportionnel, si vous voulez, où ce deuxième vote va à l'élection d'un candidat d'un parti. Mais ces partis sont vraiment minoritaires, ils sont assez peu représentatifs, ou en tout cas pas du tout représentatifs de la totalité ou d'un corps électoral, ou même ce ne sont pas des partis de masse comme on peut en avoir en Europe, par exemple. Ce sont par exemple un parti d'extrême gauche, un parti de représentation des droits des femmes, des droits des populations indigènes. Donc on ne peut pas vraiment estimer que ces partis-là structurent le paysage politique philippin ni le débat d'idées démocratiques aux Philippines. Par contre, vous l'avez cité, il y a un parti libéral qui est un parti historique, au même titre que, par exemple, le Nacionalista Party, et qui tient ses racines de la suite de l'indépendance philippine et qui, aujourd'hui, est particulièrement sous le mandat de Benigno Aquino Jr., qui était le prédécesseur de Duterte, a incarné cette démocratie libérale, ou plutôt ce parti libéral-démocrate, aux Philippines. Leni Robredo, elle, était affiliée à ce parti, mais s'en est détachée pendant la campagne parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives de décrédibilisation du parti, notamment en ligne, et qu'elle a voulu faire table rase de tout ça, montrer qu'elle n'était plus affiliée à un parti qui, certes, prône des valeurs qu'on peut juger libérales, mais qui, encore une fois, est un petit peu la façade politique d'une élite dynastique et oligarchique.
Aux Philippines.
Comme était d'ailleurs...
Qu'attendre du mandat de Ferdinand Marcos Jr., dit Bongbong Marcos.
Oui, c'est Juliette Loèche, pardon, mais plusieurs irrégularités ont été relevées pendant la campagne, voire des fraudes, des achats de vote. Comment est-ce qu'on explique que le fils Marcos, fils du de son père, que nous connaissons pour la loi martiale, pour les 50 à 70 000 personnes emprisonnées arbitrairement par les militaires, pour les tortures, les plus de 3 000 morts, comment expliquer qu'il ait obtenu ce plébiscite populaire ? Est-ce qu'il suffit de dire que c'est la campagne de désinformation qui a joué, que les campagnes sur Internet ont réussi à réhabiliter la famille famille Marcos. Est-ce que la mémoire est à ce point courte aux Philippines?
Alors, est-ce qu'elle est courte? Elle est surtout pas entretenue, cette mémoire. Pourquoi? Parce que depuis la fin de la dictature, depuis la transition démocratique, il y a eu des efforts de documentation, de construire un récit autour de ça, qui soit représenté dans des musées, qui soit représenté symboliquement. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été fait depuis la transition, c'est apporter une forme de justice. Donc toutes ces victimes dont on ne connaît en fait pas vraiment le nombre exact, elles n'ont pas obtenu une reconnaissance par l'État de leur statut de victime, ce qui n'a pas permis d'établir un véritable récit historique qui permettrait aujourd'hui de faire vivre la mémoire de la dictature.
Et est-ce que si ça c'est une... Ouais, ça ouais. C'est une première chose. Si ça prend, c'est aussi parce que la population philippine est très très jeune, plus de la moitié du corps philippin électoral a moins de 40 ans. Mais pourquoi ça prend, par ailleurs, Juliette Louech, est-ce que c'est parce que la démocratie, en quelque sorte, n'a pas tenu ses promesses, celle par exemple de vivre mieux aux Philippines?
Oui, c'est vrai, il faut vraiment revenir au contexte social-économique dans lequel l'élection a eu lieu. Je pense qu'on peut même revenir à l'élection de Duterte avant celle de Ferdinand Marcos Jr. Déjà dès 2016, après le mandat de Benigno Aquino Jr., on voyait dans les votes et malgré des fraudes qui ont été relevées, on voyait quand même un mouvement de plébiscite, ou en tout cas un mouvement qui montrait vraiment la ferveur ou la grande popularité des candidats. Et qui annonçait une volonté de changer les choses, une volonté de ne plus voir cette élite dynastique oligarchique au pouvoir, une volonté d'avoir un candidat qui leur ressemble, aussi biaisé que cela puisse être, puisqu'on sait que Duterte comme Marcos ne sont pas des Philippins lambda, ne souffrent pas des mêmes maux que les Philippins lambda, notamment en termes de situation économique, mais ils voient en eux l'incarnation d'un potentiel âge d'or qui leur permettrait de vivre mieux. Et en tout cas, ces candidats ont réussi à exprimer de façon intelligible pour les Philippins cet âge d'or qu'ils incarneraient. Contrairement peut-être à Leni Robredo qui, en faisant campagne sur des thèmes tels que la bonne gouvernance, ne s'est pas peut-être mise au niveau des attentes de la population.
Merci beaucoup Juliette Louech d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheuse sur l'Asie du Sud-Est et je rappelle le titre, le nom de votre blog d'actualité sur cette région du monde, c'est durianstories.fr. Merci beaucoup.
Merci les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et vos enjeux internationaux, Julie Gacon, à 6h45.
France Culture, l'esprit d'ouverture.